Sud Radio Guy Carlier à la limite du hors-jeu.
Avec Bagel Corner, ouvrez votre restaurant et révélez votre talent.
Bonjour Guy Carlier.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Guy, hier soir ont débuté les huitièmes de finale. Aujourd'hui, c'est une chronique 30 millions d'amis puisque vous nous parlez de ces animaux qui pronostiquent les résultats des matchs. Mais avant, un mot sur la sympathique équipe du Danemark.
Oh, arrêtez avec le Danemark, je vous en supplie, mais vous n'avez pas compris, le Danemark c'est le monde des bisounours, c'est les chouchous des footix et des institutrices en retraite. Comprenez pas que c'est un complot de l'UEFA pour faire avaler cet interminable premier tour, tous ces matchs inutiles, parce que quand même 6 groupes de 4, c'est-à-dire 24 équipes, c'est pour finalement éliminer la Macédoine du Nord, croyez pas que c'est un peu se foutre de la gueule du monde. En multipliant ainsi les matchs, on augmente la perception des droits télé, l'UEFA gagne davantage d'argent et les groupes de télé qui possèdent les droits également, car les Macédoniens du Nord, tout contents de voir leur équipe jouer l'euro, déboursent 20 euros pour voir les matchs alors que leur revenu moyen par habitant s'élève à 400 euros par an. Alors l'UEFA a inventé le Danemark pour faire passer la pilule. Danemark, c'est l'île aux enfants, le pays des rires et des chants. Et puis il est tellement émouvant dans l'épreuve. Tu parles, Eriksen, il a simulé, oui. Et au moment où je vous parle, il boit du champagne dans sa chambre d'hôtel. Et s'il s'entraîne, c'est avec des entraîneuses. Tout le monde est tombé dans le panneau. Sur Twitter, ils ont même fait une banderole. Je suis Eriksen, à la façon je suis Charlie. C'est tout juste si on n'a pas allumé des bougies aux fenêtres et entaché des peluches devant l'hôtel.
Alors Guy, détendez-vous et parlez-nous plutôt de nos amis les bêtes.
Oui, tout a commencé lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Vous vous souvenez de Polo
oh,
le
oui,
Poulpe
bien sûr.
Il était surnommé l'oracle de Berossen et on mettait dans son aquarium deux boîtes sur lesquelles on avait collé la photo du sélectionneur d'une nation. Et quand il entrait dans une des boîtes, ça signifiait que ce pays allait gagner le match. Au début, sa réputation était locale, mais il devient mondialement connu lorsque la veille d'un match de l'équipe de France, en voyant la photo de Raymond Domenech sur une boîte, Polo le Poulpe fit une violente crise nerveuse, puis entra dans la boîte et refusa obstinément d'en sortir, préfigurant ainsi l'épisode de la grève dans le bus des joueurs français. Et là, tout le monde fut impressionné qu'une bête puisse prévoir la bêtise des humains à ce point-là. Malheureusement, la charge émotionnelle de cette prédiction lui fut fatale et il décéda quelques semaines après la Coupe du Monde d'une crise cardiaque foudroyante en voyant sur un magazine une photo de Nicolas Anelka. La FIFA se mit alors en quête d'un successeur et trouva Achilles, je ne sais pas si vous vous souvenez, Achilles, le chat sourd de Saint-Pétersbourg. Alors, des scientifiques ont expliqué le plus sérieusement du monde que c'est grâce à sa surdité qu'il l'isolait du monde extérieur, qu'il pouvait se concentrer, vous voyez, comme s'il y avait un risque qu'on lui souffle et qu'il comprenne le nom du pays. Enfin, quoi qu'il en soit, il prédit avec justesse les scores des matchs et le vainqueur de la Coupe de la Confédération 2017. Alors lui, sa technique était simple, on lui présentait deux boîtes à chaussures, chacune d'entre elles portait le nom des équipes qui allaient s'affronter, on mettait la même quantité de pâté dans chaque boîte et Achilles entrait dans la boîte du pays vainqueur. Il était vraiment très doué, mais ce mode opératoire lui fit prendre du poids parce qu'évidemment, outre la pâtée de la boîte gagnante, on le récompensait en le laissant manger la pâtée de l'autre boîte. Et puis, on se récompensait également en lui donnant des petits poissons pêchés dans la Neva dont il raffolait. Et lorsqu'on l'a ressorti pour la Coupe du Monde 2018, il était devenu obèse. On a vu tout de suite qu'il n'était pas en forme quand il a pronostiqué une finale Luxembourg-Gibraltar. Hein. Donc là, l'UEFA l'a noyé dans la Neva et il a été remplacé par Marcus, un sympathique cochon, mais c'est authentique, hein, surnommé Marcus le Mystique. Alors le mode opératoire de Marcus, lui, était le suivant. On lui présentait des pommes sur lesquelles étaient inscrits les noms des équipes et la pomme qu'il mangeait indiquait le vainqueur. Ce micro-cochon noir de 6 ans n'a pas convaincu tout de suite. Sur la Coupe du Monde 2018, lorsqu'il a pronostiqué la victoire de la France, sa propriétaire, Juliette Stevens, a déclaré « Au début, l'UEFA n'en voulait pas, car quand ils sont venus lui faire passer les tests et qu'il a désigné la France vainqueur en précisant que Giroud marquerait et que Matuidi jouerait lié, ils ont éclaté de rire, ils ont failli partir. Mais comme ils n'ont pas trouvé d'autres animaux, finalement, ils l'ont gardé et ils ont eu raison. » Bon, pour être exhaustif sur le thème des animaux divinatoires, évidemment, il faut citer la chatte à Dédé, cet animal qui a joué un rôle prépondérant dans les succès des Bleus, puisque c'est elle qui a conseillé aux sélectionneurs de faire jouer non seulement Giroud et Sissoko, mais Adil Rami. Et là, c'est indiscutablement la plus forte, parce qu'aucun être humain au monde ne pouvait imaginer une chose pareille. La star de cet Euro 2020 devait être Yashoda, l'éléphant de vin qui vit aux eaux de Hambourg et qui a prédit la victoire de la France contre l'Allemagne. Mais depuis, il a commis plusieurs erreurs et il vient de perdre tout crédit. Alors, pour remplacer Yashoda, le meilleur de vin qu'on ait trouvé jusqu'à présent est François Bayrou, qui, je vous l'ai dit l'autre jour, et c'est authentique, c'est vrai, hein, sinon... Évidemment, ça n'aurait aucun intérêt, m'a donné le score exact de France-Portugal. Donc, je viens de lui envoyer un message afin qu'il me communique ses prévisions pour le match France-Suisse de demain. Je ne manquerai pas de vous le faire savoir. Vous allez voir que François Bayrou est capable de réussir pour le foot ce qu'il n'a jamais connu en matière politique, c'est-à-dire avoir une vision d'avenir.
Je peux vous faire une confidence, mon cher Guy ?
Mais je vous en prie.
Vos chroniques me font rire comme une baleine et me font un effet bœuf.
Alors, à la semaine prochaine, avec plaisir.
À la semaine prochaine, à la limite du hors-jeu. Merci beaucoup, Guy Carlier.
Sud Radio, tous au jardin.
Bonjour Valérie Chancel.
Bonjour Philippe.
Ah, vous avez entendu Guy Carlier, je sais que vous aimez le foot et que vous avez des attaches.
Non, j'aime pas le foot.
Avec la Belgique.
Non, mais après que vous ayez ri comme une baleine, je vais vous parler d'une terrasse qui a du chien.
Ah ben voilà. Allez-y, oh ben ça c'est parfait. Allez-y. Voilà. Alors, 5 cactus pour une belle terrasse, c'est ce mois-ci dans Le Chasseur français.
Dans Le Chasseur de juillet. Je présente en fait la terrasse que je préfère aujourd'hui après 20 ans à vadrouiller dans les jardins. C'est une terrasse toute simple de particulier que tout le monde peut réaliser avec des pots. Donc là, je m'adresse à toutes les personnes qui ont une terrasse minérale qui touche la maison et puis qui se disent, voilà, ma terrasse, elle est un peu palichonne, elle manque un petit peu de peps, etc. Et ben, il y a vraiment un très bel exemple ce mois-ci dans les pages jardins du Chasseur français.
Alors justement, à qui s'adresse le dossier jardin ?
Bah donc à des gens qui ont... Alors la terrasse qui est présentée, elle est quand même assez grande, elle fait à peu près 12-15 mètres sur 5, mais vous pouvez très bien en réaliser que la moitié. Hein. Donc chacun prend son petit bout, les principes sont toujours les mêmes. Alors la terrasse en question, pour vous donner une idée de sa grandeur, il y a quand même 3 portes-fenêtres qui donnent dessus, ainsi qu'une porte de service, mais encore une fois, vous pouvez très bien faire que la moitié. Hein. Donc voilà, ça s'adresse à tout le monde.
Alors quelles sont les 5 astuces pour une belle terrasse ?
Alors l'astuce principale, c'est vraiment segmenter un peu cette terrasse pour créer des pleins et des vides harmonieux, donc des îlots de potées, hein, des îlots, donc des rassemblements de potées que vous allez disposer en quinconce pour que votre terrasse ne soit pas, par exemple, complètement vide au milieu et puis avec toutes les potées sur les bords. Non. On crée des îlots, donc on rassemble plusieurs potées. Donc c'est très simple. Hein, il suffit de bouger les pots de place. Et ce qui est sympa, c'est que voilà, là on arrive fin juin, juillet, août. Traditionnellement, c'est plus vraiment une période de plantation, mais lorsqu'on a une terrasse, bah, les potées, on peut continuer à en créer. Donc c'est tout à fait d'actualité pour cet été.
Alors justement, vous avez des petits plus à nous donner pour ces terrasses, comment les rendre encore plus vivantes, encore plus belles. Alors je montre pour la vidéo le dossier du Chasseur français. Il y a vraiment plein d'idées, hein.
Alors, ce qui est sympa, donc ce qu'a fait Dominique...
Il y a notamment l'intimité du coin repas, et on aime bien la bonne chère, vous le savez.
Oui, alors, pour se sentir bien autour de la table de sa terrasse, ce qu'il faut, c'est déjà être un petit peu isolé du reste du jardin, mais pas complètement. Alors, comment est-ce qu'on va s'isoler partiellement ? Eh bien, en ayant soit une petite haie basse avec quelques petits arbres, ou alors des arbustes sur tige. L'intérêt des arbustes sur tige, c'est-à-dire que vous allez avoir comme des petits troncs, comme avec un arbre traditionnel, mais le regard va filer de part et d'autre. Donc, vous serez à la fois esprit cocooning, un petit peu isolé du reste du jardin, mais en même temps, vous aurez des percées sur ce jardin, donc vous ne vous sentirez pas, pas enfermé. Donc c'est ça, il faut jouer sur une certaine transparence avec le jardin, enfin un esprit cocooning. Donc pour garder le plan hein, sur le chasseur français, c'est, oui. C'est assez visible. Ce qu'a fait Dominique et qui est très sympa, qui demande aucun entretien, c'est par exemple, si vous avez une petite table, même si elle est défraîchie, on s'en fiche, hein, métal ou bois, vous allez mettre dessus une collection de petits sédums. Les sédums, ce sont ces petites joubarbes, on appelle ça aussi des bébés artichauts. Oui. Ce sont des petites plantes qui font des petites rosettes. Alors, vous en avez des plus ou moins vert pomme, pourpre, bordeaux, voilà. Et ce sont vraiment des plantes increvables. Et vous pouvez partir un mois en vacances, c'est pas grave. Et la collection fait un très bel effet et c'est très sympa sur une terrasse.
Et je le remontre, et tout est dans le chasseur français de ce mois-ci, dans tous les bons kiosques de France et de Navarre. Je vous embrasse, ma chère Valérie Chancel. Nous vous embrassons tous, d'ailleurs, tant votre voix est sympathique et votre rire communicatif. Le débat du dimanche. Les Français vont-ils se rendre aux urnes pour les régionales? On va en débattre avec Adrien Matou et Rachel Binas, tous deux journalistes politiques. Vous êtes 78% à dire non pour le moment.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons
vrai. Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Il est 9h sur Sud Radio.
Sud Radio. Parlons vrai.
Le journal avec Clémence Lobary. Bonjour Clémence.
Bonjour à tous. La progression du variant Delta au cœur de toutes les inquiétudes. De nombreux pays ont dû renouer avec les restrictions sanitaires. Et en France aussi, cette nouvelle souche du coronavirus prend de l'ampleur. Jour de vote, c'est le second tour des élections régionales et départementales. Près de 48 millions de Français sont appelés aux urnes. Mais l'abstention devrait une nouvelle fois être gagnante. Et puis elle sera peut-être le nouveau Thomas Pesquet. Nous avons échangé avec Mathilde Aouizerat. Cette Française a postulé pour la vaste campagne de recrutement de l'Agence spatiale européenne. Inquiétude autour du variant Delta. De nombreux pays ont décidé d'instaurer une nouvelle fois des restrictions sanitaires. Il s'agit d'éviter une flambée de cas. Le Bangladesh va ainsi imposer dès demain un nouveau confinement extrêmement sévère. Confinement également de la métropole de Sydney en Australie pour 2 semaines depuis hier soir. Et en France aussi, cette souche du coronavirus poursuit sa progression, Jean-Damien.
Oui, la présence du variant Delta du coronavirus a fortement augmenté entre mai et juin. C'est en tout cas ce que révèlent les données de Santé publique France. Il représente ainsi 7% des contaminations. Les trois régions les plus touchées sont l'Île-de-France, la Provence-Alpes-Côte d'Azur et surtout la Nouvelle-Aquitaine, plus particulièrement dans les Landes où le variant Delta représente désormais 70% des cas positifs détectés. Et le variant Delta qui est également à l'origine de 2 décès dans le Gers, ces 2 personnes âgées de 42 et 60 ans n'étaient pas vaccinées et leur état de santé était marqué par des facteurs de risque.
En attendant, la pression hospitalière baisse toujours au niveau national. Le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés s'apprête à repasser sous la barre des 9000, dont un peu plus de 1300 en service de soins critiques. Coup d'envoi des élections régionales et départementales. Les bureaux de vote ont ouvert ce matin depuis 8 heures. Près de 48 millions de Français sont appelés aux urnes aujourd'hui. Coronavirus oblige, un strict protocole sanitaire est mis en place. Pas plus de 3 électeurs par bureau de vote et port du masque obligatoire. Le gouvernement lui espère un taux de participation bien plus élevé que lors du premier tour. On le rappelle, plus de 66% des Français ne s'étaient pas rendus aux urnes dimanche dernier. 7 départements placés en alerte orange pour risque d'orage et pluie-inondation. Cela concerne le centre de la France, de Lyon jusqu'au Lot en passant par la Creuse. Un 8e département, le Cantal, est lui seulement concerné par une vigilance face aux orages. Le boom des réservations en montagne cet été, 25% de hausse par rapport à la même période l'an passé dans les massifs français. Après confinement et restrictions à répétition, les grands espaces et l'air montagnard attirent. Un phénomène particulièrement fort dans les Pyrénées avec une hausse qui atteint, elle, les 56%. Les Pyrénées, un massif pas comme les autres pour le maire des Angles et vice-président de l'agence des Pyrénées, Michel Poudade.
Les Pyrénées, c'est quand même une montagne facile. On va monter jusqu'à 2500 mètres d'altitude, des choses qu'on ne retrouve pas dans certains massifs. C'est quand même des espaces naturels hors normes. La montagne n'a pas été colonisée par l'homme. Elle est restée naturelle, un peu sauvage, nature. À grandeur humaine, que voilà, je pense que les gens vont aller rechercher cette authenticité qu'on est capable de proposer dans les Pyrénées.
Et des propos recueillis par Marie Azan, calme, grande plaine et nature, c'est le cocktail de l'été. Les gîtes de France comptent plus de demandes en campagne et en montagne que sur les littoraux. On passe au sport, le vélo tout d'abord. Julien Alaphilippe s'est emparé du maillot jaune. Le Français a remporté hier à Landerneau la première étape du Tour de France 2021. Aujourd'hui, parcours de 184 km entre Perros-Guirec et Mur-de-Bretagne. L'organisation du Tour de France qui a également décidé de déposer plainte après cette chute impressionnante hier. Une chute provoquée par une spectatrice qui tenait une pancarte beaucoup trop proche des coureurs. Le football, l'Italie s'est fait peur. La Squadra Azzurra s'est qualifiée hier soir pour les quarts de finale de l'Euro en battant l'Autriche après les prolongations. 2-1 pour les Italiens. Un peu plus tôt, le Danemark a facilement battu le Pays de Galles 4-0. Aujourd'hui, suite des 8e de finale avec à 18h Pays-Bas, République Tchèque. Et puis ce soir, le choc entre la Belgique et le Portugal. Coup d'envoi à 21h. Et puis, y aura-t-il bientôt une ou plusieurs Françaises dans l'espace? L'Agence spatiale européenne a clôturé cette semaine la première phase de recrutement des futurs astronautes. Et parmi les 20 000 candidatures déposées, 1/4 de femmes. C'est nettement plus que la campagne qui a permis de recruter ceux qui se trouvent actuellement à bord de l'ISS. Et parmi ces candidates, 1662 Françaises. Et Mathilde, elle est ingénieure et pour elle, c'est important que les femmes soient représentées.
Pour moi, le fait qu'une ou des femmes soit recrutée lors de cette sélection, c'est important pour augmenter la proportion de femmes au sein de la station spatiale et dans la réserve des astronautes. Et ainsi pour donner exemple aux jeunes filles qui ont beaucoup moins de modèles et de repères dans les domaines scientifiques que les garçons, et qu'elles aient davantage envie et moins peur de s'engager dans des études scientifiques.
Et des propos recueillis par Olivier Montaigu. Notez qu'en juillet démarra une première phase de test avec des tests cognitifs, de coordination et de personnalité. Cela devrait durer jusqu'en novembre prochain. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Excellente journée à tous à l'écoute de Sud Radio.
Merci à vous Clémence Lobary.
La météo Sud Radio.
Bonjour Rémi André.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Temps instable.
Oui, voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Avec donc cette première perturbation qui est là ce matin, qui s'étend depuis le sud-ouest jusque vers le nord et qui donne actuellement des pluies plus orageuses depuis le Limousin jusqu'au centre en remontant vers la Normandie, le bassin parisien et puis les frontières belges dans l'après-midi. Attention, ces orages peuvent être forts, mais ce sont les orages qui arriveront dans la soirée qui eux seront les plus forts. Ceux-là vont s'étendre depuis les Pyrénées jusqu'au Massif central. Ils vont remonter ensuite la nuit prochaine en direction du centre. Et là, nous avons 8 départements vigilance orange depuis le Lot jusqu'à Lyon. Attention donc la nuit prochaine à ces orages très forts sur l'ouest du Massif central. Le tout avec des températures coincées entre 17 et 20 degrés sur les bords de la Manche et 20 à 28 degrés ailleurs. Sauf que sur les bords de la Méditerranée, on va garder un temps plus estival. Les nuages seront un petit peu le soleil sera un petit peu taquiné par les nuages, mais nous verrons tout de même des températures fort agréables, très estivales, qui pourront atteindre les 30 à 31 degrés sur les Bouches-du-Rhône, le Var, mais également sur la Corse.
Merci beaucoup Rémi André.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David.
Dans quelques instants, le débat du dimanche régional 2021. Les Français vont-ils se rendre aux urnes pour le second tour? Vous êtes 78,5% à dire non. On en débattra avec Rachel Binas, journaliste indépendante, et Adrien Matou, journaliste politique à Marianne.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Philippe David.
Sud Radio, le débat de la semaine.
L'abstention a atteint un niveau record dimanche dernier avec 2 électeurs sur 3 qui ne se sont pas rendus aux urnes. Un chiffre qui se situe plus près des 70% si on compte les bulletins blancs et nuls. Un chiffre encore plus bas si on prend en compte les 7% de Français en âge de voter mais non inscrits sur les listes électorales selon l'INSEE dans une étude publiée il y a 2 ans. Bref, les Français ont fait la grève des isoloirs et le premier chiffre qui sera observé pour le second tour de ce soir sera le chiffre de l'abstention. En effet, quelle sera la légitimité des personnes élues par moins de 10% des inscrits dans des régions où auront lieu des triangulaires, quadrangulaires ou des pentagulaires. C'est la première fois que ça arrive, comme en Bretagne ou en Nouvelle-Aquitaine. Est-on encore dans une démocratie apaisée quand si peu d'électeurs se rendent aux urnes? Les Français vont-ils se rendre aux urnes pour le second tour? C'est notre débat du dimanche et vous êtes 78% à dire non pour le moment. Avec nous pour en débattre, Rachel Binaz, journaliste indépendante. Bonjour Rachel.
Bonjour.
Et Adrien Matou, journaliste politique à Marianne. Bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Les sondeurs prévoyaient 60% d'abstention, ça a été bien plus et encore pire. Comment expliquez-vous ce chiffre catastrophique, Rachel Binaz ?
Plusieurs pistes. Déjà, des enjeux qui sont peu clairs pour ce type de scrutin, hein, c'est pas nouveau. On a toujours connu une abstention assez forte pour ces scrutins intermédiaires. Une offre politique des partis qui est de plus en plus homogène. En fait, le seul enjeu, on avait l'impression, c'est la manière dont ça avait été présenté, c'était un enjeu stratégique, voire même un enjeu tactique. Est-ce que le Rassemblement national allait passer ou pas dans certaines régions ? Mais sinon, une grande difficulté à lire véritablement les problématiques auxquelles se référait ce scrutin. On a observé aussi quelques ratés lors des distributions des professions de foi.
Même pour le second tour, hein. Même pour le second tour, exactement. Il y en a plein qui disent j'ai rien reçu du tout, ou j'ai reçu, mais pas toutes les listes.
Alors, pour le premier tour, on sait que ça a compté, hein, que ça a pesé justement dans l'abstention. Et puis également des difficultés à se projeter dans ce nouvel espace depuis la refonte des régions par Hollande, avec une espèce de pulse qui ne signifie plus forcément grand-chose pour certains citoyens.
Adrien Matou, vous avez imaginé une telle abstention ?
Peut-être pas à ce niveau-là, mais en raison des causes qu'a évoqué Rachel, mais on pourrait en citer d'autres, ça ne me surprend pas outre mesure. En fait, moi, d'ailleurs, ça m'a assez amusé de voir que, notamment la majorité, après le premier tour des régionales, ne parlait que de vote électronique ou de vote obligatoire, etc. Ça me semble être la raison la moins importante de l'abstention. C'est vraiment, là, on est dans le futile, dans l'accessoire. Les raisons profondes, bon, Rachel les a un petit peu évoquées, l'offre politique qui n'est pas satisfaisante, mais aussi la complexité de ces scrutins. Les régionales et les départementales, on a décidé de les mettre en même temps.
Mais ce n'est pas le même mode de scrutin.
Pas le même mode de scrutin. Il y a un scrutin proportionnel, il y a un scrutin avec des binômes dans les cantons.
Majoritaire dans les cantons.
Dans les régions, les listes sont par département.
C'est quand même... Oui. on fait mais tout pour embrouiller les gens. Mais on peut changer de département entre le premier et le second tour.
Exactement. Combien de Français, et je dis ça sans aucune condescendance parce que je ne le savais pas avant de me renseigner, combien de Français connaissent dans le détail les compétences d'une région et les compétences d'un département ? Enfin, honnêtement, on ne fait pas grand-chose pour que les gens se mobilisent. Et en plus, je dirais que les gens ont le sentiment, et pas forcément à tort, que leur vote ne pèse pas vraiment sur la politique. Le vote pour les régionales en particulier. Est-ce que le vote pour les régionales va changer la vie d'une personne ? Honnêtement, c'est difficile de le dire.
Il y a une catégorie d'âge, ça vous concerne Adrien Matou et Rachel Binaz, malheureusement ça ne me concerne plus moi, qui vote moins que toutes les autres, c'est les jeunes, 87% d'abstention. Comment vous expliquez ça, Rachel ?
Bon, c'est quelque chose qu'on retrouve hein, régulièrement. Là, je vais reprendre un petit peu ce qu'a dit Adrien, c'est-à-dire que déjà, les enjeux sont très peu clairs. On ne sait pas, encore une fois, quels sont véritablement... les compétences des régions, des départements. Et puis, honnêtement, on peut se dire de manière assez légitime quelle serait véritablement la différence de politique entre une région aux mains des LR ou une région aux mains du PS. Honnêtement, c'est à mon avis, c'est des subtilités qui sont difficilement saisissables. Concernant les jeunes, on observe en effet une espèce de crise de la démocratie ou crise de régime assez profonde, pas seulement d'ailleurs sur ce type de scrutin, mais des mobilisations qui, qui change. Si vous voulez, les partis ne mobilisent plus, les syndicats non plus, sauf certaines générations avec un âge un petit peu plus important. Ça peut s'expliquer aussi par l'offre, hein, tout simplement, de ces partis. Et on observe chez ces jeunes des mobilisations qui vont prendre d'autres formes, par le biais d'associations, de mouvements tels que Nuit Debout, etc. Donc, il y a une espèce de glissement en réalité, et de nombreux jeunes se disent que finalement, les partis, ils ne se retrouvent plus dans les partis politiques, ni même dans les syndicats, qui ne répondent plus réellement aux problèmes qu'eux peuvent rencontrer. Donc, il y a cette mobilisation qui leur est propre, qui tendent à développer.
Adrien Matou, comment est-ce que vous expliquez, Adrien, ces jeunes 87% qui ne vont pas voter? Ça, c'est un score brejnevien, 87%. Hein.
Sauf que c'est pour personne.
Oui. alors déjà, et combien votent blanc dans les 13% qui vont voter?
On pourrait poser la question. Oui. Alors déjà, on peut un petit peu retourner la question. C'est-à-dire que les jeunes ont toujours beaucoup moins voté que les autres dans toutes les élections, ça depuis très longtemps, c'est pas nouveau. Maintenant, dans les proportions assez inouïes aujourd'hui, peut-être ça marche un petit peu dans l'autre sens. C'est-à-dire que les partis politiques savent très bien que les retraités sont les plus nombreux à voter. Et on pourrait se dire que depuis une trentaine d'années, la politique française est menée en priorité en direction des intérêts des retraités. Et c'est normal, parce qu'ils sont plus nombreux à voter. Regardez, quand Emmanuel Macron a voulu abaisser la CSG, la mobilisation des retraités était phénoménale. Les jeunes, c'est pas pareil. On peut aussi avoir un regard un petit peu critique sur cette génération qui est la mienne, donc j'hésite pas à le faire. C'est une génération qui a plus de mal à se projeter dans le collectif, qui a tendance à être plus individualiste, et à se replier sur des luttes politiques, mais qui vont être un petit peu sectorielles. Rachel a parlé de Nuit Debout, vous avez aussi les mobilisations pour le climat. Mais c'est une génération mobilisée, engagée, mais qui est un petit peu le sommet de l'iceberg et qui cache la masse des jeunes qui sont un petit peu dépolitisés et qui ont du mal à se préoccuper du sort du pays.
Dimanche dernier, le débat du Grand Matin Week-end de Sud Radio, c'était déjà sur l'abstention qui a été prévue à 60% par nos amis de l'IFOP. L'IFOP qui sera avec nous ce soir pour la soirée électorale animée par Philippe Rossi avec les vraies voix. Ce sera Romain Ben-David qui sera avec nous. Un des débatteurs qui va rendre demain un rapport à la Fondation Jean Jaurès sur l'abstention a parlé de séparatisme. Est-ce que quelque part, c'est pas un séparatisme citoyen, le fait de ne plus voter, Rachel ?
Le fait de ne plus voter, bon, là on va un peu vite en besogne. Hein. Alors certes, l'abstention était très importante au premier tour. Il y a fort à parier qu'il y a un sursaut en fait au second tour. On l'a observé en 2004, en 2010, il y avait plus 5 points de participation, plus 10 points de participation en 2015 entre le premier et le second tour. Je suis pas sûre vraiment que ce scrutin nous donne réellement, enfin, soit le bon baromètre pour connaître la mobilisation politique de manière générale. On peut se douter que voilà, aux élections présidentielles, la mobilisation sera plus importante. Ensuite, bien sûr qu'il y a on peut voir une forme de séparatisme, je sais pas si le mot est adéquat, mais de crise de régime ou de crise de la démocratie qui impacte surtout, qui touche tout particulièrement des certaines catégories en fait socioprofessionnelles. On sait que la mobilisation peut être même chez les jeunes, hein, d'ailleurs c'est important de le signaler, même chez les jeunes la mobilisation est plus importante quand on est issu d'une famille, on va dire CSP+, etc. Donc oui, il y a en effet une crise qui est importante, qui peut parfois se cristalliser autour de votes auprès de partis dits radicaux, la France Insoumise, le Rassemblement National. Or, on se rend compte quand même à cette élection-ci qu'il n'y a pas eu de déplacement pour voter avec un vote, si je puis dire, hostile à Macron, puisque les électeurs du Rassemblement National et de Mélenchon ne se sont pas déplacés. Mais il y a fort à parier que pour des enjeux un peu plus nationaux, la participation sera plus importante.
Adrien, on peut parler de séparatisme électoral ?
Alors, il y a une connotation un peu accusatoire dans le terme qui me fait pas
trop. Je cite un des débatteurs, hein.
Ouais. Moi, alors, je ne sais pas si séparatisme est le bon terme, mais on pourra.
C'était Dorian Dreuil, exactement.
On pourra être vraiment inquiet si les chiffres de l'abstention sont très, très élevés pour la présidentielle. Le fait que les gens ne se déplacent pas en masse pour déterminer la politique des transports de la Nouvelle-Aquitaine, je n'appelle pas ça du séparatisme démocratique. moi, je pense qu'il y a des gens qui ne croient plus en fait, en la dramatisation des enjeux. Je vais vous donner un exemple sur la région PACA. Vous avez toute la question du Front républicain. Est-ce que les gens ont vraiment l'impression de faire face à la menace fasciste en allant voter pour Renaud Muselier plutôt que pour Thierry Mariani? Vous voyez, il y a quand même un décalage entre ce que le monde politique raconte, ce que les politiques médiatiques du jour racontent, et la vie des gens. Et tout simplement, moi je trouve que les gens attachent peu d'importance à ces élections régionales et départementales parce qu'ils n'ont pas le sentiment, à juste titre, qu'elles vont changer leur vie.
Mais Rachel Binas a rappelé une chose, et je voudrais vous faire réagir, Adrien. Les CSP+ vont voter, et on l'a vu, les jeunes ne votent pas, les classes populaires non plus. Pourquoi ?
Alors déjà, je nuance ça quand même, parce qu'il y a aussi beaucoup d'abstention chez les CSP+, pour ce scrutin-là. Pour les régionales.
Oui.
Même si c'est vrai que les classes populaires votent moins. Les classes populaires votent moins, bah, tout simplement, c'est un petit peu comme pour les jeunes. La politique de la France, depuis pas mal de temps, n'est pas faite en fonction de leurs intérêts. Ils ont l'impression qu'ils perdent, c'est-à-dire que les classes populaires ont objectivement perdu en 2017 avec l'élection d'Emmanuel Macron. Mais il y a aussi le sentiment que la politique est impuissante à changer leur vie. Pourquoi ? Bah, y a deux raisons rapidement. Vous avez cet empilement de structures, départements, régions, communes, intercommunalités, États, qui rend le tout un petit peu illisible. Et vous avez quand même l'appartenance de la France à l'Union européenne qui contraint les politiques françaises, qui les enserre dans un carcan et qui fait qu'on ne peut pas tout faire pour changer la vie des gens.
Dernière question à tous les deux, je vous lance dans les pronostics. Rachel Binas, combien de participations ce soir ?
Oh, moi, je suis nulle en pronostics. écoutez, je vais dire, qu'on prend... 60%.
60% ah oui. De participation ou d'abstention ?
Non, 60% d'abstention, excusez-moi.
60% d'abstention, taux d'abstention ce soir, Adrien.
Oui, bah, si je devais jouer les oracles...
C'est le seul enjeu. Hein.
Ouais. Faites le Paul Le Poulpe, vous qui aimez le football.
C'est ça. Je dirais entre 35 et 40% de participation.
Voilà, ah oui, donc vous êtes à peu près...
Je pense pas que ça bougera significativement par rapport au premier tour.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Rachel Binas, journaliste indépendante.
Merci.
Adrien Matou, journaliste politique à Marianne Verdict. 77,7% d'entre vous pensent que les Français ne vont pas se rendre aux urnes pour ce second tour des régionales aujourd'hui. De suite, Osez Investir, Thomas Binet, il reçoit dans l'hebdo Frédéric Boll, président de Swiss Life Asset Managers, et Alexandre Pell, acteur et humoriste dans le club.
Sud Radio.
Sud Radio.
Parlons vrai.
Parlons vrai.
Parlons vrai. La météo Sud Radio.
Ah, le temps est très perturbé, mon cher Rémi André.
Ah oui, très perturbé, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que nous avons actuellement donc une grosse dépression dans le golfe de Gascogne. Cela dirige vers notre pays un flux de sud-sud-ouest perturbé, avec tout d'abord cette perturbation qui donne des averses et des orages ce matin depuis le Limousin jusqu'au centre, en remontant vers la Normandie, le bassin parisien, et dans l'après-midi sur les frontières du nord-est. Et puis le deuxième effet, ce sera cette perturbation orageuse qui va se créer dans l'après-midi entre les Pyrénées et le Massif central. Là aussi, des averses orageuses assez fortes qui vont remonter d'ailleurs vers les 8 départements vigilance orange la nuit prochaine, depuis le Lot jusqu'à Lyon. Le tout avec des températures estivales, mais qui dépasseront pas les 20 degrés près de la Manche, alors qu'on atteindra les 30 à 31 degrés près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Rémi André. Bonjour Jean-Paul Delperrier.
Bonjour Philippe, bonjour.
Il faut prendre des notes parce qu'il y a une grosse tirelire au Quintet Plus du jour.
Eh oui, comme tous les dimanches, le PMU a mis en place une tirelire de 500 000 euros aujourd'hui à se partager pour les gagnants dans l'ordre. Dans ce prix de gros bois, quatrième épreuve de la Réunion 1, 2850 mètres. Le 10 Carnaval du Vivier sera ma base. Ce cheval découvre un très bel engagement. Attention au 9 BPAM et au 12 Elvis du Vallon qui seront donc mes trois bases. Devant le 15 Gérimaud, 6 Donaviva, 2 Éveil du Châtelet, 16 Blues des Londiers et 5 Domingo Della. Ce qui nous donne 10, 9, 12, 15, 6, 2, 16 et 5 en sélection du jour à Lyon-Paris, Réunion 3 courses 5 avec le 2 Émirat.
Merci à vous Jean-Paul Delperrier. Tous vos pronostics sur sudradio.fr. Tout de suite, Thomas Binet, Osez Investir.
Procivis, l'immobilier qui a du sens, présente
Sud Radio, le grand matin week-end. Osez Investir, l'hebdo, 9h30-10h, Thomas Binet.
Nous nous retrouvons pour le 93e numéro d'Oser Investir, l'hebdo de l'investissement réussi. Bonjour Thomas Binet.
Bonjour Philippe.
Quel est le menu cette semaine Thomas?
Eh bien on va aborder d'abord une application qui vous permettra de connaître le coût global de votre investissement en immobilier si vous voulez en réaliser un. On recevra ensuite Frédéric Boll, président de Swiss Life Asset Manager, gestionnaire d'actifs immobiliers, intervenant en commerce et en bureau. Et on continuera et finira notre émission de ce dimanche matin avec notre consultant logement, Bernard Cadeau.
Et en deuxième partie d'émission, nous recevrons Alexandre Pell, acteur et scénariste.
TheLog.fr, la plateforme qui vous simplifie la log, présente
Sud Radio, Osez Investir, la clé de la semaine.
Et cette semaine, Thomas, vous allez nous parler des projets d'achat et d'investissement immobilier.
Absolument, Philippe. Peut-être que parmi nos auditeurs, certains souhaitent investir dans la pierre, mais ne savent pas par où commencer et comment s'y prendre. Alors que ce soit pour l'achat de la résidence principale ou un investissement locatif, il y a de multiples critères à prendre en compte avant de vider son porte-monnaie.
Et pour cela, vous allez nous parler de l'application Saveimo.
Oui, cette application vous aide à prendre les meilleures décisions qui soient afin de maximiser votre retour sur investissement. Grâce aux données dans leur base, l'application calcule les données utiles à votre projet, assurance habitation, travaux, frais de notaire, montant d'emprunt et bien d'autres points. Bref, tout connaître du futur coût de votre futur investissement. Vous pouvez simuler votre potentiel achat, maison, appartement, local commercial ou encore place de parking et avoir accès à une multitude de données en moins d'une minute.
Intéressant Thomas, mais comment marche cette application?
Alors il suffit de télécharger l'application, de renseigner les informations demandées et Saveimo vous indique le montant précis de la transaction, du crédit et d'autres charges. Vous pouvez également projeter le prix de revente.
Parfait pour éviter de jeter de l'argent par les fenêtres.
Sud Radio, Osez Investir.
Notre invité cette semaine est Frédéric Boll, qui est président de Swiss Life Asset Managers France. Vous êtes ce qu'on appelle plus communément un gestionnaire d'actifs. Le portefeuille immobilier européen du groupe Swiss Life représente 97,5 milliards d'euros au 31 décembre 2020 et il est composé principalement d'immobilier de bureau et de commerce.
Oui Philippe, nous recevons donc ce matin Frédéric Boll pour parler de la situation de l'investissement en France, pour laquelle vous gérez d'ailleurs en France 19,4 milliards d'euros d'actifs et de fonds immobiliers. Bonjour Frédéric Boll.
Bonjour.
Frédéric Boll, nous sommes sortis du confinement et du couvre-feu, j'ai envie de dire enfin. Comment se sont passés les 6 premiers mois de l'année 2021 dans votre activité?
Alors écoutez, ça a été, c'est paradoxal, mais ça a été très, très actif, très intense. Voilà, donc on a à la fois, bien sûr, un programme d'investissement à faire et donc ben, on source pas mal d'actifs à l'acquisition, un peu dans toutes les classes d'actifs et particulièrement dans tout ce qui est résidentiel, logement, mais aussi les résidences seniors, aussi la santé et puis là on regarde l'hôtellerie.
Il y a une classe d'actifs qui fonctionne mieux aujourd'hui qu'une autre.
Aujourd'hui, ce qui marche mieux, c'est la logistique, bien sûr, oui. Et puis c'est tout ce qui est résidentiel, aussi bien résidence senior que le logement classique.
Alors, on dit communément que la situation économique est un peu tendue malgré tout, même si les entreprises ont bénéficié de PGE, de subventions, il va falloir bien rembourser tout ça et faire face à ces échéances. Ne craignez-vous pas des dépôts de bilan en cascade, eu égard à la situation post-confinement qu'on pourrait rencontrer ?
Alors écoutez, c'est une question difficile. Hein. Mmh. Nous, on est en lien direct avec les locataires. Et donc, bien entendu, il y a des situations très diverses en fonction de l'activité de ces locataires. Et donc, nous sommes, bien sûr, en prise avec eux. Et puis, quand il y a des situations difficiles, on soutient ces locataires par des mesures d'accompagnement qui vont de retarder le paiement des loyers en passant par des réductions ou en passant par des annulations de temps en temps. Quand les cas se présentent. Bien sûr, chaque situation est différente et on analyse ça de très très près.
Vous avez beaucoup de cas qui sont présentés quand même ?
On a, alors j'ai pas les chiffres exacts en tête, ouais. Mais bien sûr, ça représente plusieurs centaines de cas.
Alors, est-ce que vous considérez, dans votre activité, vu ce que vous pouvez voir, d'ailleurs dans votre entreprise et parmi les locataires, que le télétravail qui a été beaucoup utilisé durant cette période va transformer durablement le rapport d'une part au travail et aux locaux occupés ?
Alors, par rapport à la dernière partie de la question, en fait, ce qui s'est passé, c'est un accélérateur de phénomènes qui avait déjà été enclenché. Oui. À savoir, pour le commerce, on est à la fois, comme vous le savez, dans une offre digitale de plus en plus importante qui prend de la place. Donc, ça a accéléré ce phénomène-là. D'ailleurs, en faveur de la logistique, hein, parce qu'on évoquait ça, parce que quand on commande en ligne, il faut des livraisons, il faut des entrepôts pour stocker et puis il faut livrer. Et côté bureau aussi, c'est un accélérateur, puisque le bureau se transformait. Si vous vous souvenez bien, il y avait quand même un certain nombre de sujets. Et donc, ça va venir là aussi accélérer quelque part des transformations de bureaux. Alors le bureau en bureau, mais avec peut-être plus d'espace important pour les salles de réunion, de convivialité pour que les salariés aient envie de venir travailler au bureau. Voilà, et donc c'est un mix entre télétravail et effectivement ça va changer la façon de travailler, mais aussi quand on fait des voyages d'affaires, la façon ou peut-être de moins voyager pour faire du business, parce qu'on peut très bien le faire aujourd'hui avec, comme vous le savez, et comme on l'a pu le faire pendant 18 mois, en visio, au lieu de se déplacer. Donc tout ça, bien sûr, des impacts sur à peu près toutes les classes d'actifs de l'immobilier, la logistique, on a parlé du logement, le bureau, le commerce, mais aussi l'hôtellerie, puisque il y aura peut-être aujourd'hui, bien sûr, ils ont été impactés par moins de touristes et aussi par moins de voyages d'affaires. Et donc tout ça est en train de se transformer.
Donc un nouveau monde.
Je ne sais pas si on va parler de nouveau monde. Ouais. En tout cas, d'une transformation accélérée, ouais. Ça c'est sûr.
Alors, moi je voudrais vous parler un peu de la SCPI, Société Civile de Placement Immobilier, parce que c'est une classe d'actifs, c'est une démarche de placement intéressante pour nos auditeurs. Est-ce que d'abord, en quelques mots, vous pouvez nous en expliquer le principe, pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous écoutent ce dimanche matin ?
La SCPI, c'est une Société Civile de Placement Immobilier, ouais. donc vous investissez un montant, en fait, vous achetez des parts de ce véhicule-là, et en fait, ce véhicule, avec les montants qui sont investis par l'ensemble des clients, achète des actifs immobiliers, donc détient directement des actifs immobiliers. Donc, c'est vrai que vous achetez des part d'un véhicule, mais indirectement vous êtes propriétaire d'un patrimoine immobilier, alors ce qui peut être très diversifié, comme donc à savoir bureau, logement, commerce, etc. Comme il peut être très spécialisé que sur le bureau ou que sur le logement, par exemple. Et donc vous avez le rendement des actifs sous-jacents, donc qui se représentent entre 4 et 4,5%, alors un peu moins pour certains SCPI, un peu plus pour d'autres SCPI, mais globalement il y a un rendement courant, plus une appréciation du capital, quand bien entendu les marchés sont favorables, ce qui était le cas ces 10 ou 15 dernières années.
Alors, la SCPI, ce n'est pas forcément un placement bien connu des jeunes, et pour autant, vu ce qui se prépare sur le plan des retraites et les difficultés d'avoir des disponibilités financières, est-ce que ça ne serait pas le placement le plus intelligent pour un jeune aujourd'hui ?
Alors, ce serait prétentieux de dire le placement le plus intelligent. En tout cas, c'est un placement très pertinent pour un jeune aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que l'immobilier, même quand c'est de manière indirecte, c'est du long terme, c'est du moyen long terme. c'est clair qu'aujourd'hui, ça fait partie d'une des rares classes d'actifs à apporter un rendement très régulier sur une longue période. Je parlais d'à peu près 4%, on était un peu au-dessus ces dernières années. Peut-être qu'on sera un peu en dessous pour les prochaines années, puisqu'il y a une compression des taux, une compression des rendements globalement sur les classes d'actifs. Mais quand on sait que les obligations sont à taux zéro ou en négatif, c'est clair que d'avoir à peu près 4%, c'est très intéressant. Et vous savez qu'on peut aussi emprunter pour acheter des parts de SCPI. Donc vous empruntez à un taux aujourd'hui qui serait environ moins d'1% à 15 ou 20 ans pour en fait investir sur une classe d'actifs qui peut rapporter plus que finalement le coût de votre emprunt. Je parlais de 4%. Alors, bien sûr, tout ça n'est pas garanti, hein, loin de là. Mais en tout cas, si on regarde l'historique et si on se projette dans... quand on regarde les patrimoines immobiliers, c'est ce qu'on peut attendre pour les prochaines années.
Merci Frédéric Boll et je rappelle que vous êtes le président de Swiss Life Asset Manager.
Sud Radio, Osez Investir.
Bernard Cadeau, vous êtes le consultant d'Osez Investir en logement. Alors Bernard, vous voulez nous parler de partager les logements.
Décidément, la crise sanitaire aura bousculé nos habitudes et nos demandes en matière de logement. Nous avons déjà évoqué la colocation, le béguinage, les espaces partagés, etc., etc. Ce que je veux évoquer ce matin, c'est une nouvelle approche. Certes, qui est à son balbutiement, mais qui pourrait prendre de l'ampleur à l'avenir.
Et en quoi est-ce nouveau ?
Le télétravail a éloigné de nombreux habitants des grandes villes vers les villes moyennes proches, voire vers la province. Alors, la SNCF a adapté son offre tarifaire pour les clients effectuant plusieurs allers-retours dans la semaine. Et de la même manière, une réflexion est actuellement menée par un think tank sur une nouvelle typologie de logement, une sorte de pied-à-terre mutualisé que se partageraient plusieurs utilisateurs y habitant chacun quelques jours par semaine. Et tout ça pour un tarif de l'ordre de 40 à 60 euros la nuitée. Ils bénéficieraient alors du logement en s'occupant de leurs draps et en faisant un petit peu de ménage. Des juristes planchent sur un bail adapté, parce que bien évidemment ce bail n'existe pas encore, et des architectes sur la forme que pourraient prendre ces logements.
Alors quels en sont les avantages ?
Les promoteurs de cette solution mettent en avant la densification de l'usage du bien immobilier plutôt que la densification de la ville. Tout dépendra du type d'investisseur qui s'intéressera au logement, un lot unique ou un immeuble entier. Une plateforme regroupe déjà des offres pour des locations longue durée avec occupation à temps partiel. L'Île-de-France est principalement concernée, mais suivront Bordeaux, Lille, Lyon, sans doute.
Alors jusqu'où allons-nous, Bernard ?
Est-ce qu'on ira vers une solution de flex logement, comme on parle de flex office, où chacun dispose d'un espace, mais pas forcément toujours dans le même logement ? Un peu trop tôt pour le dire, bien sûr. Une chose est certaine et rassurante en même temps, c'est notre capacité d'adaptation et d'imagination qui reste intacte, quelles que soient les circonstances.
Merci Bernard.
Restez avec nous, on revient dans un instant avec le club Osez Investir et Alexandre Pell, acteur et scénariste.
Sud Radio, le grand matin week-end, Osez Investir, l'hebdo, 9h30-10h, Tom Abinet.
Avec Procivis, l'immobilier qui a du sens.